Vous êtes sur RTL. Thomas Soto,
RTL Soir.
En principe, et sauf contre-ordre d'ici là, on devrait pouvoir retourner au théâtre, au cinéma, au spectacle à partir de lundi prochain, le 15 décembre. Lui espère donc reprendre ses plaidoiries au Théâtre Libre de Paris dès le 17 décembre, avant une tournée dans tout le pays. Richard Berry est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Richard Berry.
Bonsoir.
Je suis content de vous voir parce que on vous entend pas, on vous voit pas assez, les artistes en ce moment, surtout dans cette période d'incertitude. J'ai pris beaucoup de précautions en vous présentant parce qu'on voit bien que la situation sanitaire est évolutive dans le mauvais sens, semble-t-il, ce soir. Vous aviez fait une première tournée interrompue au printemps dernier pour cause de premier confinement. Il a repris en septembre ce spectacle et bam, deuxième confinement. Ce soir, la réouverture reste une hypothèse. Comment vous vivez tout ça, cette période d'incertitude ?
Mal. On la vit mal. On la vit, on accepte parce qu'on comprend. On ne peut pas se révolter plus que ça. Mais en même temps, c'est difficile à vivre. Mmh. C'est difficile à vivre pour moi, mais c'est difficile à vivre pour tous ceux qui participent au spectacle et à la culture d'une manière générale, aux intermittents, aux techniciens, à tous ceux qui gravitent autour, aux décorateurs, aux musiciens, aux machinistes, aux électriciens. Enfin, c'est une période qui est très difficile à vivre. Quoi.
Et vous le vivez mal en vous disant, voilà, c'est la fatalité, il n'y a pas le choix, ou il y a un sentiment d'injustice derrière tout ça?
Non, l'injustice, elle est valable pour tout le monde. Tout le monde le vit et tout le monde a le droit légitimement de ressentir les choses comme injustes. Et moi, je prends plutôt ça comme une fatalité. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut qu'on la traverse. Mais vraiment, ça devient difficile. Mais il y en a d'autres qui, je le vois, comme vous, peuvent continuer à travailler, par exemple. Il y a des métiers qui sont épargnés, plus ou moins, en tous les cas. Et le nôtre, pas, comme les restaurateurs.
La culture n'a jamais été aussi peu prise en considération, disiez-vous, lors du premier confinement.
Le premier confinement, elle a été très peu prise en considération aussi, parce qu'on avait un ministre inexistant. Un ministre qui n'a pas porté notre parole. Qui n'a pas véhiculé le drame qu'on était en train de vivre, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, avec Roselyne Bachelot, qui, elle, milite beaucoup pour nous, et fait entendre un peu notre voix. Moi, j'essaye de le faire le plus que je peux. Malheureusement, quand on voit les chiffres, comme vous venez de l'annoncer, on peut pas aller contre.
Voilà. Et là, cette incertitude, vous êtes rentré dans ce studio en disant, en fait quoi, on joue, on joue pas. En fait, vous savez pas si vous jouez la semaine prochaine.
Non. J'attends les décisions de, je sais plus qui va l'annoncer, je crois que c'est Macron qui doit le dire le 15 ou quelque chose comme ça.
Jean Castex,
si on est ou Castex, si on est déconfiné plus ou moins, parce que en plus du déconfinement, faut pas oublier le couvre-feu.
C'est-à-dire qu'il faudra jouer à 19h et que tout le monde soit rentré chez soi à 21h.
Voilà. Mais il paraît que le billet de fait foi, c'est-à-dire que
il y aura un système d'eurodatage.
Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on peut rentrer vers 9h30, 10h.
Ça change votre façon de jouer, ce contexte, ou pas? Ça pèse? Ou une fois que vous êtes sur scène, non, c'est parti comme
Non,
comme
quand je suis sur scène, ça change rien. En revanche, il y a un échange que je ressens avec le public qui est plus fort. Il y a une relation émotionnelle. D'abord, c'est ça qui est formidable dans notre métier, quand on fait du théâtre, ce qu'on appelle le live, le vivant, le théâtre vivant, c'est extraordinaire parce qu'on a d'habitude cet échange-là. Mais là, c'est exacerbé par cette situation. Et l'émotion que ressent le public, d'ailleurs, très souvent, il commence à applaudir avant qu'on commence, ce qui est quand même assez rare.
Ce qui est rassurant, ce qui est réconfortant, j'imagine.
Mais on sent qu'ils sont contents d'être là, on sent qu'ils sont heureux qu'on puisse être à nouveau dans ce rendez-vous simultané, lui dans la salle et moi sur le plateau.
Alors venons-en à ce formidable spectacle plaidoirie. Comment on joue une plaidoirie? On dit souvent que les avocats sont des acteurs, Richard Berry. Quelle différence entre un avocat qui joue et un comédien qui plaide?
Alors moi, je dirais d'abord, l'avantage de l'avocat, c'est que lui, il peut être acteur. On l'a vu d'ailleurs même avec notre ministre qui a été acteur. Mais un acteur ne peut pas être avocat, à moins de jouer le rôle d'un avocat. Déjà, c'est un avantage. Et puis alors, la différence, c'est que l'avocat, il écrit son texte. Il est concerné par une vie, par une histoire, par un vrai problème. Et donc, la façon dont il va véhiculer ses idées est très importante pour le sort de l'homme ou de la situation qu'il défend. Alors que nous, acteurs, on est bon, on n'est pas bon, on risque quoi? On risque de décevoir le public. C'est-à-dire, l'enjeu est moins grand. L'enjeu d'un avocat est énorme. En revanche, le point commun, c'est le charisme. Il faut qu'à un moment donné, l'avocat puisse faire passer ses idées ou sa conviction sur le public.
C'est là qu'il a besoin d'être acteur.
C'est là qu'il a besoin aussi un peu d'être acteur. Mais aussi, l'acteur, quand il joue, bah, il faut qu'il fasse un peu la même chose que l'avocat, c'est-à-dire faire comme si, à mon avis, en tous les cas, moi, quand je fais ma plaidoirie, j'ai l'impression que j'ai sur mes épaules ou entre les mains la vie des gens que je représente.
Alors, dans ce spectacle que j'ai eu la chance de venir voir, et je le dis sincèrement, vous y êtes impressionnant de justesse, vous jouez, vous interprétez des plaidoiries de Maître Lombard, de Gisèle Halimi, de Maître Leclerc, sauf que ces plaidoiries, elles n'ont pas été enregistrées, parce qu'on n'enregistre pas ce qui se passe dans une cour d'assises, dans un tribunal. Elles se sont envolées au moment où elles ont été prononcées. Comment vous les avez reconstruites, rebâties, reconstituées ?
Alors, c'est un journaliste,
Mathieu Aron.
Qui s'appelle Mathieu Aron, qui est un chroniqueur judiciaire qui travaille au Nouvel Obs, qui a réuni toutes ces plaidoiries après voilà un long travail qu'il a fait pendant plusieurs années dans un livre et alors bon il y a plusieurs façons de les réunir, il y en a certains qui les écrivent donc ils nous les ont donnés, qui les ont donnés à Mathieu Aron, et puis il y en a d'autres qui ont été prises en sténo et qu'on a réussi à traduire avec un sténotypiste, donc il nous a donné ces plaidoiries. Et puis Il y a une anecdote qui est assez amusante que raconte que Mathieu, d'ailleurs, à Aron. Il y a un des avocats, je ne sais pas si j'ai le droit de donner son nom.
Allez-y.
Bah, c'est Spinner, qui lui a dit, quand Mathieu lui a demandé, tu n'as pas cette plaidoirie que tu avais faite pour telle personne, et il dit, non, parce que là, je les improvise, comme beaucoup, comme Badinter. Ouais. Comme, il dit, mais assieds-toi, je vais te la refaire. Il lui a refait la plaidoirie. Comme quoi, vous voyez, quand il y a quelque chose qui se passe quand même dans la tête de, c'est élaboré, c'est construit, même s'ils ne l'ont pas écrite, à un moment donné, il y a quelque chose quand même qui est très très structuré dans leur travail.
Alors vous jouez, je sais pas si on peut dire qu'on joue une plaidoirie, c'est quoi le terme exactement?
Ah bah si, moi
si,
je les joue. Oui.
Parmi les plaidoiries, il y a celle de Maître Henri Leclerc, qui concerne l'affaire Courgeot, les bébés congelés. Maître Leclerc qui a plaidé pour la dernière fois aux assises vendredi dernier à Nanterre à 86 ans. Je crois que vous avez pas mal échangé avec lui, vous impressionne pas mal, Maître Leclerc, non ?
Oui,
pourquoi
parce que
lui ?
Parce que d'abord il est d'une grande humanité.
Ouais.
Il véhicule comme ça une tendresse. Vous savez, il a la réputation dans le métier d'être un avocat qui s'émeut énormément des cas des clients, pour les clients qu'il représente, et très souvent il pleure dans ses plaidoiries. Ça me touche, je sais pas, il y a quelque chose que je trouve, il a un côté grand-père quand il tout. Et puis alors, il a plaidé beaucoup sur les droits de l'homme, Henri Leclerc. Et il m'a raconté une anecdote sur dans l'affaire Courgeot, c'est que il me dit, en vous écoutant, je me suis souvenu que c'est vrai, j'avais décidé de ne pas aborder le problème des bébés. Je voulais pas que le jury, à un moment donné, ait cette image des bébés congelés ou brûlés, puisque ça a été le cas. Et puis, à un moment donné, en plein milieu de ma plaidoirie, enfin pas au tout début, je me suis dit, il faut que j'en parle, c'est plus fort que moi. Et à un moment donné, ça m'est venu comme une fulgurance, et il s'est mis à parler de ses bébés, en expliquant que voilà, ça aurait pu être les vôtres, ça aurait pu être les miens, et que nous, même les hommes, on sait ce que c'est. Et le fait qu'il ait évacué l'image, c'est pas resté comme un cauchemar, c'est resté comme quelque chose qui est, voilà, possible. Et ça lui a permis, je pense, de réduire la peine de cette femme à quelques années de prison, alors que je pense que sinon, ça aurait pas été la même chose. Ça serait resté comme un cauchemar.
C'est un mélange de technique et de grande sincérité, ces plaidoiries. La semaine dernière, au procès des attentats de janvier 2015 et donc de Charlie Hebdo, Maître Richard Malka a plaidé s'adressant aux terroristes. Ils pourraient tous nous tuer, ça ne servirait plus à rien parce que Charlie est devenu une idée et Charlie pourrait disparaître aujourd'hui. Cette idée vivrait encore. On ne peut pas tuer une idée. C'est pas la peine d'essayer. Charlie Hebdo, vous en avez fait un symbole, vous en avez fait une idée. On ne la tuera plus. Est-ce que vous pourriez la jouer, celle-là, de plaidoirie ?
Alors, celle-ci, oui. Je pourrais la jouer. Oui. Mais d'abord, j'aime beaucoup Richard Malka. Et la première plaidoirie qu'il avait faite, je ne sais pas si vous la connaissez.
Au premier procès, Charlie.
Au procès, voilà.
Des caricatures.
Caricatures. Elle était extraordinaire. Elle est d'une force, d'une intelligence et d'une drôlerie aussi. À l'image de Charlie, d'ailleurs. Formidable. Mais celle-ci, oui, je pense que elle a quelque chose d'encore plus universel, moins anecdotique, je veux dire, au sens où les caricatures pourraient être un phénomène anecdotique.
Si vous deviez plaider vous choisiriez quel thème, vous défendriez quelle cause, vous, Maître Berry ?
En ce moment, j'ai envie de... Je m'intéresse beaucoup, moi, vous savez, au petit pouvoir, c'est-à-dire à tous ceux qui expriment comme ça une violence contre les faibles. Alors, c'est les enfants, je pourrais m'intéresser à tous ceux qui ont fait, quelles que soient les exactions possibles, mais sur des enfants ou sur les femmes.
Et vous les défendriez ?
Ah oui, ah oui, j'aimerais beaucoup. Je suis d'ailleurs en train de préparer en ce moment une deuxième version de ce spectacle, Plaidoirie 2. Et il y aura des plaidoiries sur les féminicides, sur les enfants aussi, sur la pédophilie. Enfin bref, voilà, c'est des cas qui me touchent énormément.
Et vous pourriez défendre les pédophiles ?
Ah non.
Ah non, de l'autre côté.
Alors,
c'est
là,
ça.
J'aurais dit, là, non, bah, ouais. C'est difficile. Non, mais en même temps, tout le monde a le droit d'être défendu, hein. C'est pas la question. Mais, non, là, il y a des plaidoiries qui prennent en cause des cas comme, des enfants qui ont été victimes de pédophilie ou des femmes comme Alexandra Lange ou Jacqueline Sauvage.
Merci infiniment, Richard Berry. Vous êtes une très bonne raison de retourner au théâtre et on espère vraiment vous y retrouver sur scène à partir du 17 décembre pour ceux qui sont à Paris, en région parisienne, au
J'espère
théâtre.
Aussi.
Pour la reprise de Plaidoirie. Merci à vous d'être venu ce
Merci
soir.
Merci Thomas, surtout.
Dans un instant, on va en Égypte pour la culture de l'actu, puisque le maréchal Al-Sissi, le président égyptien, est en France, et donc avec Cléopâtre Molcou, en quelque sorte.
RTL Soir.